l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mes invités de la rédaction aujourd'hui sont les metteuses en scène Noël de Murcia et Anne-France Delarchand de la pièce Les paroles gelées, supplique. C'est interprété par la compagnie L'Apostrophe. C'est du 7 au 14 janvier 2026 au théâtre du Cube Noir de Strasbourg. Une pièce donc qui inaugure cette nouvelle saison 2026. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour,
ravie de vous recevoir. Alors on va parler de vous, cette envie de monter cette pièce qui n'est pas vraiment une pièce, hein, qui est une suite de suppliques qui sont tirées d'archives réelles. Donc ce sont des témoignages de suppliques de la population juive en 1940. Alors on va déjà parler de l'envie de monter cette pièce et de la découverte de ces suppliques. On va commencer par l'une ou l'autre, Noël de Murcia.
Oui, parce que je suis à l'origine du projet, puisque c'est en voyant le documentaire de Jérôme Prieur et Laurent Joly, intitulé Les suppliques, sur FR3, que j'ai eu envie de faire connaître ces suppliques autrement, par le théâtre. Eux avaient fait un documentaire. Voilà.
Donc ces suppliques sont en... Vous avez eu, vous, moyen de les consulter? Elles sont classées aux archives?
Alors je vais vous expliquer. Donc elles sont effectivement aux archives nationales depuis la fin de la guerre. Elles sont restées aux archives nationales et aussi quelquefois aux archives départementales, quelquefois dans les préfectures. Mais la plupart sont aux archives nationales. Et c'est Laurent Joly, l'historien, qui, lors d'un travail de recherche, les a redécouvertes aux archives nationales. Il en a retrouvé 1200. Il y en a sans doute plus, puisqu'il y en a d'autres endroits. Et à partir de là, ils ont fait un choix, une sélection, et pour diffuser, pour produire, enfin créer leur documentaire « Les suppliques ».
Alors c'est une série de suppliques là dans cette pièce. Alors c'est une pièce, mais c'est un projet de témoignage sur scène interprété par des comédiens. Donc si, ça reste une pièce, même si elle a un format original. Alors une série de suppliques adressées aux autorités du régime de Vichy qui se veulent... c'est un régime qui se veut protecteur envers cette population juive dans un premier temps, jusqu'au rouleau compresseur dont on connaît aujourd'hui l'issue. En 1940, il y avait encore dans ces suppliques quelque chose, je dirais, de l'ordre de l'espoir de cette population juive de l'époque.
Oui, et au début, effectivement, il y avait... de la confiance dans le maréchal, dans notamment certaines suppliques le montre bien, cette vénération quelque part pour certains du maréchal qui pouvait paraître comme un sauveur, et l'Allemagne à ce moment-là n'avait pas non plus, enfin les gens ne connaissaient pas les issues, et d'ailleurs les suppliques le montrent souvent quand certains plaident en faveur de l'un des proches qui est parti pour une destination inconnue vers l'Est. Et donc, effectivement, après, très vite quand même, les gens se sont rendus compte de la lourdeur. Et d'ailleurs, ces suppliques, dont certaines ont eu au début des réponses, qui d'ailleurs étaient des fins de non-recevoir pour la plupart, mais ensuite il n'y avait même plus de réponse à ces suppliques qui ont donc suivi donc, dans le déroulement que nous avons pris, un déroulement chronologique qui donne donc, en fonction des différentes lois émises par les autorités allemandes, et donc toutes les lois sur le statut des Juifs, ensuite sur les professions interdites, sur la confiscation des biens, et puis ensuite les rafles, la rafle du Veldiv, et puis les rafles en province.
Oui, je voudrais juste ajouter qu'au départ, les Juifs français se sont sentis protégés, hein, par leur, puisqu'ils étaient devenus français à partir de la Révolution. Et ceux qui ont été dans le viseur de Vichy, c'était les Juifs étrangers. Et dès 1940, il y a eu tout de suite internement des Juifs étrangers. Donc là, pour eux, ils ont tout de suite compris qu'ils étaient la cible et que ça allait mal se passer. Parce que les hommes...
Dès 1940.
Dès 1940. Une des premières lois, c'est celle de l'internement des Juifs étrangers.
Et d'ailleurs, ce qui donnait à certains Juifs français des sentiments pas très beaux vis-à-vis des Juifs étrangers, parce que, voilà, ils se sentaient, enfin, c'était pas les mêmes Juifs. Il y avait les Juifs étrangers et puis il y avait les Juifs français. Pas tous, mais certains avaient ce sentiment-là. Par exemple, je pense à une supplique en particulier d'une commerçante, donc il y avait un magasin de fourrures, et donc voilà, elle se trouvait plus que coincée, et alors que les catholiques, eux, pouvaient vendre leur fourrure, et donc il y avait un sentiment d'injustice et puis bon, un sentiment de non-compréhension des uns envers les autres.
Une discrimination évidente qui s'est mise en place. Est-ce que vous
pas
avez
pour tous.
Peut-être eu la curiosité ou peut-être que vous avez de façon fortuite eu des nouvelles des personnes dont vous avez aujourd'hui porté les témoignages?
Alors il y a effectivement dans le documentaire de Jérôme Prieur, il y a un épilogue où on donne ce que sont devenus quelques-uns des juifs, des auteurs des suppliques. Et personnellement, j'ai fait tout un travail de recherche sur le site du Mémorial de la Shoah et j'ai retrouvé, alors bien sûr, tous les juifs déportés et qui, voilà, les juifs déportés, je les ai retrouvés. Il y en a beaucoup dans notre liste de suppliques. Et ce qui est assez terrible, c'est que, en général, quand il y en avait un qui partait, qui était déporté, les autres aussi ont été déportés dans d'autres convois. Quelquefois, il y a une famille, par exemple, qui est partie. D'abord, ça a été les deux filles, puis la mère. Ou bien une autre, c'était les parents, puis le petit frère, puis une sœur, puis l'auteur de la supplique. Vous voyez, c'est des familles entières, dans des convois différents.
Donc, on parle de rouleaux compresseurs, évidemment, de l'état de Vichy, évidemment, après, par les nazis. Vous faites, dans la présentation de cette pièce, un parallèle avec des dérives actuelles. Et surtout, vous faites un appel à la vigilance.
Voilà, c'est ça.
Effectivement, ça nous a paru, alors là, tout à fait important, de donner à connaître, parce que, bon, les générations plus jeunes ne connaissent pas. Il y a encore malheureusement des négationnistes, donc on en a entendu certains avec véhémence et qui nous ont, enfin, en l'occurrence moi, beaucoup touchés en me disant comment est-ce encore possible, et encore, en l'occurrence là c'était une personne de, je ne sais pas, une soixantaine d'années, c'était pas un gamin. Donc voilà, ça nous paraît effectivement important de donner à connaître des faits réels, puisque donc nous donnons à l'épilogue certains de ceux dont nous avons pu trouver la trace, pas tous, sur les 34 suppliques que nous donnons, il y a effectivement, on n'a pas la trace de tout le monde, mais donc à la fin, et je dois dire que, enfin, on ne va pas tout dire, mais parce que, bon, quand les suppliques sont dites, donc on sait l'histoire des personnes, et quand à la fin, on sait ce qui en est de ceux qui ne sont pas revenus, ça fait mal, et ça fait très mal, oui. Et je pense que, voilà, c'est ça qui est important, de se dire qu'il faut faire très attention, être très vigilant dans ces périodes, disons, troublées.
Oui, sur cette question-là, qui est essentielle, en tout cas dans notre projet, c'est que ce qui nous a intéressés, c'était de montrer la responsabilité de Vichy. Pas des Allemands, hein, vraiment la responsabilité par leurs lois, par les actions, par les rafles, par l'énorme machine administrative et bureaucratique qui broyait vraiment les gens, qui les fichait, qui les contrôlait, etc. Et ça, sans la bureaucratie, sans l'administration, le régime de Vichy aurait été impuissant. Et je veux dire que c'est pour ça que c'est cette vigilance-là, excusez-moi, qu'on tient à susciter, parce que très vite, un régime peut très vite basculer, devenir autoritaire, devenir même dictatorial, puisque le dernier livre de Laurent Joly s'appelle « La dictature de Vichy ». Et avec l'aide de l'administration qui est aux ordres, qui se soumet, eh bien, très vite, des lois, les droits humains peuvent être bafoués. Et la justice peut être bafouée. Et encore aujourd'hui, bien sûr, ça peut advenir.
Et bien sûr qu'on peut faire un parallèle. Alors, on va parler de la troupe, de la compagnie, l'apostrophe que vous avez créée, Noël de Murcia, en 2004. C'est une troupe amateur, évidemment, qui fait partie du collectif 314, qui d'ailleurs a des représentations récurrentes au Cube Noir, donc la salle de spectacle qui se situe dans le quartier de Königshofen. Comment est-ce que vous avez amené justement cette troupe, ces comédiens, à incarner des personnes qui ont souffert, ont effectivement pour beaucoup été déportés après? C'est tout au-delà du message qui a été déclamé sur scène, il y a quelque chose de plus profond. Ils incarnent aujourd'hui une mémoire, ils deviennent passeurs de mémoire.
Oui, et votre question, c'est sur la manière dont on a procédé ou bien, comment on a fait?
Comment est-ce que vous avez amené justement ces comédiens amateurs, oui, aujourd'hui à porter un sujet si lourd?
C'est là où notre collaboration a été la plus effective sur ce travail de direction. Parce que c'est pas simple d'incarner des gens qui sont des victimes, qui ont existé, qu'on n'a pas connues, dont on n'a comme trace que la supplique. Le risque, c'est ça risque d'être la caricature, par exemple. Et la vigilance aussi. Là, nous, on a dû avoir un devoir de vigilance pour être très respectueux. Vraiment. Et là, on s'est aidé l'une l'autre. Vraiment, là, on a été ensemble là-dessus. Pour, même quand on n'était pas admiratif d'une supplique, mais on avait un travail, un devoir de la comprendre de l'intérieur, de respecter, hein, et de ne pas juger et de ne pas, surtout pas, caricaturer.
Anne-France Delarchand, vous, on vous retrouve sur scène?
Oui, et Noël aussi. Et donc oui, je suis une des porte-paroles, enfin porte-parole, parce que bon, le mot de spectacle, effectivement, ça donne à voir et ça donne à entendre, mais c'est autre chose qu'un spectacle avec un papa, une maman, une grand-mère, oui, etc. Ce sont des personnes dont nous sommes les porte-parole. Et en fait, au début, quand on a fait les premières lectures, d'ailleurs, certains, on peut le dire, certains qui avaient été sollicités au départ ont préféré prendre de la distance et voilà, ne pas y participer parce que ils ne souhaitaient pas, voilà, tout simplement. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du travail, notamment avec les deux plus jeunes, que petit à petit, ils entraient dans... Alors, ça me gêne de dire dans leur personnage, mais en tout cas, dans la personne. Et c'est pas vraiment une incarnation par rapport à d'autres spectacles auxquels nous avons participé toutes les deux, et puis Noël depuis plus longtemps. Et donc, c'est autre chose, et c'est quelque chose de plus profond. Et hier soir encore, enfin... On se rend compte de l'émotion que nous éprouvons parce que ce sont c'est pas des personnages que nous donnons à entendre et à voir, ce sont des personnes. Et ça, notamment quand on entend ensuite ce qu'est advenu leur personne, ceux qui sont ne pas revenus de là où ils étaient, c'est encore plus douloureux.
Donc c'est du 7 au 14 janvier, je lisais, au théâtre Le Cube Noir à Königshofen. Il y a volontairement peu de public dans la salle. Il y a une scénographie particulière ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment une mise en espace très particulière. C'était mon idée et j'ai convaincu Anne-France parce que ce n'était pas évident. C'est-à-dire que j'inverse les rapports. C'est-à-dire que le public, là, n'est plus un public de consommateurs. C'est un public qui est... Il est sur la scène et il devient acteur. Hein, acteur dans la réception de ses suppliques. Et les auteurs des suppliques, eux, sont à la place du public. Et parce qu'une salle de théâtre... C'est très beau d'abord, et puis ça convoque les absents, ça convoque ceux qui se sont assis, ceux qui pourraient être assis là, et puis ceux qui vont peut-être être assis là. Et je trouve que c'est il y a une correspondance aussi avec ce qu'il est advenu de toutes ces personnes.
Noël de Murcia, Anne-France Delarchand, merci infiniment d'être passée nous voir pour nous parler de cette pièce, de ce projet, de ces témoignages, ce relais de mémoire. Donc, je rappelle, c'est du 7 au 14 janvier au théâtre du Cube Noir à Strasbourg. Il reste quelques places pour réserver, évidemment. Vous pouvez vous rendre sur le site du Cube Noir. Et,
pardon, non, de la messagerie de la compagnie L'Apostrophe. Bah écoute, c'est indiqué dans les flyers et dans le dossier, dans le petit livret.
On mettra un lien sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les deux d'être passées.
Et il reste plus que quelques places.
Oui.
Écoutez, non, il faut toujours, hein, il faut un petit peu teaser, dire qu'il ne reste pas beaucoup de places.
Ah d'accord.
On en a rajouté, c'est pour ça. On vient d'en rajouter.
Vous venez d'en rajouter parce qu'au départ, c'était c'était complet sur certaines dates déjà. Oui. Et là, évidemment, vous m'avez dit que vous avez rajouté quelques places pour que le plus grand nombre puisse profiter et devenir eux aussi des passeurs de mémoire. Merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.